partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie qui, en tant que partenaire de la Fédération internationale des professeurs de français, la FIPF, vous propose une retransmission de la journée célébrant son 40e anniversaire. C'était le jeudi 26 juin 2009 à l'Institut de France. Dans cette émission, vous allez écouter Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, ambassadeur de France au Sénégal, qui a partagé avec les invités de la FIPF son expérience sur la place, l'enseignement et le rayonnement de la langue française en Afrique.
Récemment, ici, dans cette maison, lors d'une cérémonie de réception, Frédéric Vitoux a utilisé une typologie des récits que vous connaissez peut-être, mais que j'ai trouvé très, très approprié aujourd'hui. Il disait qu'il y a quatre types de récits. Il y a des choses qu'on raconte, qu'on connaît, qu'on raconte à des gens qui les connaissent aussi. Alors ça, c'est par exemple les tragédies classiques. La tragédie classique raconte des mythes à des gens qui les connaissent. Il y a des récits où on raconte quelque chose qu'on connaît à des gens qui ne le connaissent pas. C'est le roman, c'est tout l'univers de la fiction. Le troisième type, c'est des gens qui racontent quelque chose qu'ils ne connaissent pas à d'autres gens qui ne le connaissent pas non plus. Par exemple, c'est le feuilleton où on invente au fur et à mesure. On ne sait pas trop où on va, mais on invente. Et puis, il y a un dernier type. C'est celui où quelqu'un ne connaît pas quelque chose et où il en parle à des personnes qui, elles, le connaissent. Et c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vous demande toute votre indulgence parce que traiter du français dans le monde devant un parterre de professeurs de français venus du monde entier et qui sont donc particulièrement au fait à la fois des difficultés, des beautés, des grandeurs et aussi des combats de cette langue, c'est évidemment très difficile, et mon propos n'est certainement pas ni de vous apprendre quelque chose, ni de vous imposer une idée, mais plutôt de partager quelques expériences, quelques idées avec un point de vue qui est le mien, étant entendu que je représente la France dans un pays francophone d'Afrique, avec toutes les difficultés, toutes les contradictions que ça peut représenter. En venant, j'ai pensé à cette petite anecdote, c'est que la semaine dernière, il y avait à Dakar le groupe de contact international sur la Mauritanie. Vous savez que la Mauritanie est engagée dans un processus de transition politique extrêmement compliqué, que tout le monde se penche sur le sort de ce pays et que les Sénégalais ont regroupé à la fois les Nations Unies, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'OCI, des représentants des pays membres du Conseil de sécurité. Et nous nous sommes réunis. Quand je dis jour et nuit, c'est vraiment jour et nuit, parce que, comme vous savez, les Mauritaniens boivent du thé. Et il nous est arrivé de finir à 6 heures du matin, les yeux grands ouverts, tellement on avait bu de thé. Et alors, en regardant autour de moi, je m'apercevais l'autre jour qu'au fond, je notais qu'il y avait un Algérien, un Tunisien, un Sénégalais, une Américaine, un Anglais, un Allemand, une Suédoise, un Espagnol, un Russe, un Burkinabé et un Chinois. Et que nous avons tous négocié en français. Alors ça, c'est quand même très rassurant. Et ça n'est pas seulement le fait que nous étions dans le problème d'un pays francophone, nous essayons de régler le problème d'un pays francophone, mais aussi parce que c'était la seule langue commune, véritablement, de tous les gens qui étaient là. La seule langue de travail possible. Donc c'est quand même quelque chose qui est évidemment très, très encourageant. La langue que vous enseignez, on la parle. Et on la parle dans des endroits qui sont des endroits de décision, qui est quand même quelque chose d'essentiel. Alors évidemment, tout de suite se pose la question du nombre. Dès qu'on parle du français dans le monde, puisque c'était initialement le titre qu'on m'avait demandé de traiter. Mais enfin, de toute façon, je vais parler d'autre chose, donc ce n'est pas grave. Mais l'idée français dans le monde, on nous parle toujours du nombre. Et c'est vrai qu'on nous fait toujours cette comparaison par rapport aux locuteurs de chinois, aux locuteurs d'anglais, aux locuteurs de russe, et que le français, en termes de nombre, de valeur absolue, et n'est pas situé dans les premières langues. Il est dans les positions qui sont maintenant des positions modestes en termes de proportion de la population du monde. Et c'est sur cette notion quantitative qu'on base la plupart du temps le thème du recul. Le recul du français au fond, il est quantifié comme ça par le nombre. Et au fond, je crois qu'il faut quand même s'interroger sur cette valeur du nombre. D'abord parce que c'est très difficile de vérifier ces statistiques. Elles sont différentes d'une source à l'autre. Il y a beaucoup de propagande aussi dans ces statistiques. Et puis je crois qu'il faut les corriger avec d'autres choses. Et notamment, il faut croiser le nombre avec l'espace aussi. Hein, l'espace est quand même très important. L'air géographique du français est extrêmement vaste. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le nombre d'États dans lesquels le français est parlé, soit comme langue officielle, soit comme langue minoritaire, soit enseigné de façon importante, est très important. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait tout le poids politique, évidemment, du français. Mais ce qui me paraît le plus important et le plus caractéristique, c'est le rapport du français aux autres langues. C'est-à-dire que, je m'explique, beaucoup de langues qui sont plus parlées que la nôtre en quantité, en nombre de locuteurs, sont parlées sous forme de langue maternelle, dans une aire géographique qui est l'aire, au fond, naturelle d'une population. Je pense à la Chine, et même l'Allemagne d'ailleurs. Les locuteurs d'allemand, c'est essentiellement l'Allemagne et l'Europe centrale. Nous avons une expansion du français, bien au-delà, bien entendu, de la France, et un mariage, donc, avec un nombre de langues de base qui est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que le français est, on pourrait dire, naturellement, la langue de la diversité. Et je crois que c'est ce qui explique, sans doute, pour une part, que le français soit devenu le symbole de la diversité. Parce que c'est une langue alternative, c'est une langue qui se marie avec un très grand nombre d'autres langues premières, et qui ne... dans lequel d'ailleurs le concept même de langue première, langue seconde se trouble parce qu'en Afrique, par exemple, au Sénégal, c'est difficile de dire. Les gens parlent plusieurs langues. La langue officielle reste le français. À certains égards, le français est presque d'une certaine manière une langue étrangère, en tout cas une partie de la population. Il n'y a que 10% de la population qui la parle couramment. Et cependant, c'est une langue du pays, profondément du pays. Donc ce mariage avec la langue ou les langues locales fait toute la puissance, j'allais dire, du français comme langue de diversité. Et quand on parle de diversité, on parle évidemment de valeur. Et c'est vrai que dès qu'on parle du français, on entre dans cette notion de valeur. Tout de suite, les gens vous parlent de valeur. Vous disent le français, pour moi, j'apprends le français ou j'ai appris le français ou je parle le français parce que ça me permet, d'une certaine manière, de prendre position par rapport à des valeurs. La diversité en est une, mais il y a aussi très souvent la notion de résistance. Bon, résistance à l'uniformisation, ça vous connaissez bien, mais parfois aussi résistance à la colonisation. Et c'est tout le paradoxe. Lorsque je vais en Gambie, je suis accrédité aussi en Gambie. En Gambie, on veut apprendre le français. On a d'ailleurs un programme important, le PAFEG en Gambie, parce que les Gambiens sont extrêmement demandeurs de français. Mais ils sont demandeurs de français contre l'anglais, parce que nous sommes la langue qui n'est pas la langue du colonisateur. Et c'est aussi, évidemment, la langue des droits de l'homme. C'est aussi la langue qui véhicule toute cette notion philosophique des Lumières. Et c'est bien le paradoxe. C'est parce que nous sommes en même temps une langue qui offre cette alternative et qui offre ce schéma de valeurs, et en même temps, dans d'autres pays, la langue du colonisateur, la langue d'une forme d'impérialisme, la langue de certains excès qui ont pu être commis dans notre langue, ou en tout cas au cours de l'expansion de notre pays dans ses colonies. Donc il y a toujours cette contradiction. Et on navigue toujours dans cette contradiction. Et moi, vivant au Sénégal et représentant la France là-bas, je suis tout le temps placé dans cette ambivalence. Alors ce n'est pas très grave, parce qu'en Afrique, on apprend à vivre avec l'ambivalence. Les Africains ont beaucoup moins, je trouve, c'est un des charmes de ce continent, la hantise des contradictions. Finalement, au fond, les choses, le principe de non-contradiction est moins prégnant en Afrique. Je trouve qu'on peut dire une chose et son contraire, et la penser avec une grande sincérité, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'en général, c'est vrai, car tout est dans tout et réciproquement, comme disait Pierre Dac, mais enfin, en Afrique, peut-être plus qu'ailleurs. Mais, donc, moi, je vis avec ça. C'est-à-dire qu'à la fois, je véhicule la langue d'un pays qui a conquis l'Afrique, ou une partie de l'Afrique, et en même temps qu'il y a apporté la liberté d'un pays qui a été un pays esclavagiste et qui en même temps a été un des pays où s'est mené le plus violemment et avec le plus de succès aussi le combat anti-esclavagiste. Je suis le représentant d'un pays qui a à la fois pu pratiquer des excès et même des crimes dans sa présence dans ses colonies et qui en même temps a toujours porté des valeurs qui étaient des valeurs de libération, de république, de dignité, etc. Donc voilà, on vit avec ça, et le français, c'est tout ça. Le français, c'est tout ça, et au Sénégal, vous avez une chose et son contraire. Vous avez Boubacar Boris Diop qui vous dit le français est une langue impérialiste. Depuis les massacres au Rwanda, il est persuadé que les massacres du Rwanda étaient au fond un des sous-produits de la francophonie. Je ne reprends pas ça à mon compte, voilà ce qu'il dit. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à écrire en wolof. Vous avez ça d'un côté. Et puis vous avez de l'autre côté, quand j'ai été élu dans cette prestigieuse académie, des gens qui vous reçoivent jusqu'au fin fond des villages africains avec un enthousiasme, avec une chaleur et avec une sincérité qui fait que vous êtes élu comme si vous étiez l'un des leurs. Et c'est l'un des leurs qui entre dans cette académie et qui est reconnu. Donc il y a ce paradoxe, il faut vivre avec, mais évidemment... Enseigner le français, défendre le français, c'est se battre. C'est être pris dans un champ de passion. Le français n'est pas une langue calme. C'est une langue de combat, où les défenseurs de la francophonie sont souvent très agressifs. Moi, je reçois des lettres, bon, chaque faute de français, etc., qui sont terribles. Il y a parfois des fautes d'orthographe dans ces lettres, d'ailleurs. Alors là, on triomphe. Mais... c'est une langue de combat. Les gens ne peuvent pas, et tant mieux, considérer le français, j'allais dire... d'une façon froide, sauf peut-être, justement, et c'est le paradoxe, en France. Nous sommes, en France même, assez relâchés dans notre manière de parler. Nous sommes assez tolérants. Nous sommes peut-être assez, peut-être même pas assez vigilants. Et il y a une forme de laxisme, souvent, qu'on trouve dans l'usage de la langue ici, qui peut donner lieu aussi à des scènes assez drôles. Par exemple, j'ai reçu, il y a quelques semaines, à Dakar, le professeur Cerchilini, que vous connaissez tous, donc, qui est à la fois à l'émission que vous connaissez sur TV5, puis en même temps est recteur de l'AUF, et il est venu faire une présentation au Centre culturel français de Dakar sur le français. Et sa thèse était simple, sa thèse était de dire au fond, bon, français, c'est une langue qui doit vivre, faut pas être trop... Enfin, je schématise, je simplifie, mais enfin, c'était un peu... Faut pas être trop à cheval sur les tournures, faut... Voilà, bien sûr, il y a des formules impropres, mais enfin, il faut... Voilà, après tout, on peut accepter différentes formes de français, etc. Et alors, il a terminé dans un silence de mort. Et Sénégalais, hein, qui a levé le doigt, disant, mais attendez, non, on n'est pas d'accord. Le français, il faut le parler correctement. Et d'ailleurs, la semaine dernière, disait l'interlocuteur en question, j'ai porté plainte contre une publicité télévisée où il y avait une faute de français, j'ai obtenu le droit de gain de cause, etc. Autrement dit, on avait d'un côté un français de France gaulois qui venait expliquer que le français, finalement, devait évoluer et devait bouger, et puis vous aviez les gardiens du temple qui étaient les Sénégalais, qui d'ailleurs, il faut leur rendre cette justice, soit ne parlent pas français, soit quand ils le parlent, souvent le parlent de façon excellente et avec une grande rigueur à la fois grammaticale et de vocabulaire. Donc, voilà, c'est cette omniprésence des combats et cette nécessité pour nous, Français, de les soutenir, car nous ne sommes pas forcément en première ligne. Nos amis québécois sont souvent beaucoup plus battants, et c'est vrai que nos amis suisses m'ont fait le reproche à plusieurs reprises de ne pas être assez assidus aux réunions des amis de la francophonie qui ont été créés à Dakar, etc. Nous ne sommes peut-être pas assez conscients de ces combats, mais ils existent et il faut en être... Il faut y prendre part. Pour ça, il y a beaucoup d'instruments. Vous faites partie, en tant que professeur de français, de l'un de ces instruments, qui est le réseau d'enseignement. C'est absolument fondamental, bien sûr, c'est l'enseignement. Ce réseau, sa vitalité, sa vigueur, c'est absolument essentiel. Il y a l'OIF, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, l'AUF, d'autres instruments. Mais puisqu'on est à l'Académie française, je voudrais juste en dire un mot par rapport à la langue, justement. L'Académie, à la fois, enfin, me paraît être le détenteur d'une forme d'autorité qui n'a peut-être pas été assez... sur laquelle on n'a peut-être pas assez réfléchi, en fait, dans la transformation de la société autour de nous. Autorité, c'est trois choses. La définition de l'autorité, c'est trois choses. C'est le fait d'obéir à la règle, c'est le fait de faire respecter la règle, mais c'est aussi le fait de changer la règle. C'est ça, l'autorité. C'est à la fois de se soumettre à ce qui existe, et de le faire respecter, mais c'est aussi de le faire évoluer. Et peut-être que dans la façon dont l'Académie perçoit ou a perçu jusqu'à présent sa fonction, la fonction de faire respecter la règle a peut-être plus prévalu par rapport à la nécessité de la faire évoluer. Et là-dessus, il y a certainement quelque chose qui est en question, c'est-à-dire l'adaptation de la langue à un contexte complètement nouveau, à une transformation de la France qui est absolument stupéfiante, puisque ce pays est devenu un pays d'immigration massive, dans lequel le français n'est pas toujours, évidemment, et de loin, la langue maternelle des gens qui vont y vivre et qui en ont la nationalité. Et par conséquent, il faut éviter que le français, ou la règle du français, ou les difficultés du français, ne deviennent un mécanisme d'exclusion ou un mécanisme qui sépare finalement le bon français des autres, hein, et qui devienne une machine de ségrégation. Donc il y a certainement une réflexion que l'Académie peut accompagner, doit accompagner. Je sais que Madame le secrétaire perpétuel en est tout à fait consciente. L'Académie, nageant dans cette eau nouvelle d'un monde dans lequel le français est complètement ouvert à beaucoup d'autres populations, enfin la France j'entends, est ouvert à beaucoup d'autres populations, va devoir certainement mener une réflexion profonde sur la langue et son usage. Maintenant, un mot du réseau, justement, que vous représentez et de l'enseignement du français à l'étranger. Et ceci en liaison avec Dakar. Moi, ce qui me frappe quand je parle avec nos professeurs de français, que je regarde nos établissements, on a 5 établissements homologués au Sénégal, c'est le défi du nombre. Alors là, tout à l'heure, je parlais du nombre global, mais dans un pays, le défi du nombre, c'est absolument colossal. Ça, il faut avoir ça en tête. Un pays comme le Sénégal, 54, même plus, presque 55% de la population a moins de 20 ans. Ce qui veut dire que le défi en termes d'apprentissage du français est absolument considérable. Alors, il y a ceux qui vous disent que c'est un échec, le développement est un échec, on a tout ce discours. Bon, moi je dis non, la moitié de la population a quand même bon an mal an bénéficié d'un système scolaire de grande qualité. Mais là, il y a vraiment un afflux face auquel on est extrêmement démuni. Et ça suppose bien sûr des moyens, c'est indiscutable, mais aussi de revoir nos implantations, notre offre de français et nos méthodes de travail. Ce qui est frappant, par exemple, dans une ville comme Dakar, on travaillait là-dessus l'autre jour, c'est de voir la géographie de cette ville complètement changer en 10 ans. Si vous regardez les zones qui étaient les plus peuplées, le Dakar colonial, le Dakar du plateau, et puis des extensions au-dessus, et si vous regardez la ville aujourd'hui, vous apercevez que l'immense majorité de la population est située dans des banlieues, dans des zones nouvelles, qui sont des zones qui sont à la frontière de la ville, qui la bloquent d'ailleurs, puisque c'est une presqu'île, elle est bouchée par cette masse de population qui se trouve là. Ce sont des populations qui viennent de la zone arachidière, qui viennent de l'intérieur du pays, qui se retrouvent là. Et vous avez des cartes, j'aurais pu vous les apporter, qui sont fascinantes, où vous voyez le nombre d'enfants de 5 ans, le nombre de gens venant des zones rurales, la pauvreté, qui se recoupe et qui dessine une zone tout à fait nette, une bande tout à fait nette, les banlieues et la zone nord de la péninsule. Et si vous prenez maintenant l'inverse, c'est-à-dire la zone où il y a les emplois formels, où il y a les gens avec un certain revenu et où il y a malheureusement nos institutions d'enseignement, ben vous avez le contraire. Vous avez l'autre partie de la ville. C'est-à-dire qu'il y a un divorce total entre nos moyens, d'un point de vue géographique, je dirais, et le défi de ces populations nouvelles. Et ça, c'est un problème considérable qui exige de la part des responsables que nous sommes une adaptation, mais aussi une inventivité, parce qu'il n'est pas question de construire des centres culturels partout, ça, c'est pas possible. Mais nous avons, par exemple, commencé à établir des jumelages avec Pékin, avec cette énorme banlieue de Pékin, qui a été créé en 1952. Il y avait 12 000 habitants en 1952. Il y en a 12 millions. Il y en a 1 million 2 aujourd'hui. 1 million 2. Dans le même. Bon. Cette zone, il y a des petits centres culturels où on commence, qui sont plutôt des centres communautaires, un centre de quartier, où on commence à essayer de tisser des liens et une offre d'enseignement, notamment du français, parce que c'est fondamental. Et sinon, ce qui progresse, ce n'est pas le français, ce sont les langues locales, c'est l'arabe aussi, beaucoup à travers les daras et tout ça, mais le français doit s'adapter à cette offre, sinon, évidemment, il est tout à fait inadapté. On ne peut pas réussir seul, et moi, j'insiste beaucoup sur le rôle des communautés des communautés intermédiaires. Je pense en particulier aux Libanais, par exemple. Les Libanais d'Afrique constituent une communauté charnière absolument fondamentale pour la propagation du français. Et travailler en étroite collaboration avec les Libanais du Sénégal, c'est atteindre aussi la population sénégalaise, parce que ce sont des intermédiaires. Ils l'ont toujours été. Récemment, ici, ils le jouent pleinement. Et pour eux, la seule langue de communication possible avec le pays, c'est véritablement le français. Donc il y a là quelque chose d'essentiel. Un autre élément sur lequel on est amené à s'interroger régulièrement, c'est le rapport aux langues nationales. Bon, là-dessus, il y a des dogmes et il y a une attitude souvent un peu crispée. C'est vrai que, par exemple, dans un pays comme le Sénégal, vous avez aujourd'hui une langue qui a pris de facto le rôle de langue nationale, qui est le Wolof. Mais ça n'est pas la langue nationale. Et ça ne peut pas l'être, en tout cas pour le moment, et ça ne peut pas l'être seul, puisque dès qu'une proposition dans ce sens est faite, tous les autres locuteurs de Peul, de Diola, etc., disent non, si vous reconnaissez le Wolof, il faut reconnaître notre langue. Donc le français reste, en quelque sorte, la langue par défaut. Mais je pense que ça n'est pas notre intérêt pour la propagation du français, de nous situer, de nous arc-bouter contre l'usage des langues nationales, contre leur propagation. Je pense que le français, bien sûr, au Sénégal, ne représente que 10%, mais moi, je préfère présenter le français non pas comme la dernière langue nationale, mais comme la première langue internationale. C'est-à-dire dire que ce n'est pas une langue de plus et qu'on vous impose et qui fait partie du kaléidoscope, c'est la seule langue nationale, parce que c'est devenu, et c'est une langue nationale, c'est la seule langue nationale qui vous ouvre sur le monde entier. Et donc, conservez-la comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des choses troublantes, et vous connaissez beaucoup mieux que moi, dans certains pays anglophones, dans lesquels les langues nationales sont utilisées beaucoup plus, et avec une édition notamment en langue nationale, eh bien, il y a une stimulation de l'ensemble, c'est-à-dire du domaine linguistique et de la production, et ça n'est pas forcément les uns contre les autres. Donc, je soumets ça comme un débat, mais en tout cas, il faut éviter, à mon sens, de se situer dans une posture trop ouvertement agressive à l'égard de ces langues nationales. Je crois que ça n'est pas du tout notre intérêt. Et enfin, dernier point que je voudrais aborder, c'est notre effort. Notre effort à nous, Français, de parler d'autres langues. Moi, j'ai du mal. Je parle trois autres langues. Je parle l'anglais, l'italien et le portugais, parce que j'ai vécu au Brésil. J'ai beaucoup de mal à les parler, parce que non, Jean-Paul sait que je les parle volontiers, mais parce que quand on entend, même de loin, l'ambassadeur de France utiliser une autre langue que le français, toujours quelqu'un pour venir vous dénoncer lâchement et dire « Vous avez vu ?» Il ne défend pas la francophonie. Moi, ça n'est pas ma conception. Je pense que la francophonie, ça n'est pas une paresse, ça n'est pas une commodité. Ce n'est pas faire parler le français aux autres pour soit pouvoir parler sa langue. Non. La francophonie, c'est un effort vers la diversité, mais qu'on doit pratiquer aussi. Et moi, ça ne me gêne pas du tout de faire un effort en direction d'autres langues. Là, en ce moment, je suis en train d'apprendre l'amharique parce que ça faisait des années que je voulais le faire, etc. J'apprends l'amharique, c'est une langue difficile et qui est passionnante, mais alors pour laquelle il n'y a pas de méthode moderne, etc. Je n'y vois pas une réduction de ma souveraineté ni de mes fonctions. Donc je crois que notre ouverture au monde, notre crédibilité en matière de diversité, elle est d'autant plus grande que nous acceptons de faire cet effort, de parler d'autres langues, de communiquer dans d'autres langues et de ne pas avoir, j'allais dire, une attitude trop défensive. Moi, pour les élections américaines à Dakar, je considérais que c'était quelque chose de très important pour tout le monde, pour le monde entier. J'ai fait une espèce de soirée ouverte et les Sénégalais, alors avec un grand écran, les Sénégalais étaient très, très étonnés. Ils disaient, mais l'ambassadeur de France fait une soirée pour les élections américaines. Ben, j'ai dit oui. Et alors, là, ça s'est corsé, c'est que comme la couverture de l'événement par France 24 était quand même un peu laborieuse, quelqu'un, à un moment donné, a mis CNN. Alors là, c'est devenu l'horreur totale et il a fallu tout de suite intervenir pour remettre France 24. Mais le fait est que nous vivons, et je conclurai là-dessus, nous, Français, notamment en Afrique, puisque je parle de l'expérience que je vis, nous vivons dans une situation particulière où nous avons à assumer pleinement, à vivre pleinement avec cet héritage qui est le nôtre. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que voilà, la France et le Sénégal ont une vie commune, très longue, une histoire douloureuse, une histoire difficile, mais aussi une belle histoire et des valeurs ensemble, communes. Pas de problème avec ça. Mais ça n'est pas une raison pour que nous continuions à être les seuls, pour que nous voulions éloigner tous les prétendants. Là, on n'est pas là en train de garder une fiancée. Voilà. Moi, que des Américains, que des Chinois, que des Indiens, que les gens du Golfe viennent, fassent du commerce, ouvrent des centres culturels, etc., ça ne me gêne pas. Et je le dis aux Sénégalais. Ils ne me croyaient pas au début, même qu'ils me croient maintenant. Je leur explique que ça ne nous gêne pas. Nous sommes pour la mondialisation. Le français, nous le défendons dans le monde. Nos entreprises, elles se battent dans le monde. Elles sont capables de se défendre partout. Je veux dire, aussi bien en Chine qu'aux États-Unis, etc., partout. Donc l'Afrique n'est pas à nous. Il faut quitter complètement cette idée. L'ouverture est une chose normale. Il faut simplement des règles communes et pas un jeu trop biaisé. Ça, c'est autre chose, parce que, notamment en matière commerciale. Mais en tout cas, cette ouverture, elle est bienvenue. Et nous devons en être les témoins. Nous devons en être les acteurs. Lorsque nous faisons apparaître la France comme un pays ouvert, ma femme n'est pas française, par exemple, eh bien, c'est à chaque fois une sorte de manière de partager avec les autres pays ce que nous attendons d'eux, c'est-à-dire d'être présents au monde. Et le français ne vivra, j'allais dire ne survivra, mais je ne suis pas du tout inquiet sur sa survie, mais ne vivra et ne prospérera que dans ce mariage avec le monde dont nous sommes à la fois les représentants, parfois les victimes, mais en tout cas certainement les défenseurs. Voilà, merci à tous.
Je voulais juste dire à Monsieur Ruffin, moi j'étais très sensible à l'ensemble de l'argumentation de son discours que je partage pleinement, et je voudrais lui dire aussi que ça rejoint en effet une évolution professionnelle absolument évidente. Peut-être on a l'occasion de dire un mot sur la profession d'enseignants de français à l'heure actuelle, qui a en effet depuis une quarantaine d'années beaucoup évolué. Et s'il y a 40 ans, lorsqu'on enseignait le français comme langue étrangère, il s'agissait de laisser bien soigneusement les autres langues à l'extérieur de la classe et de s'occuper uniquement du français, tout en français, seulement du français, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les chercheurs en pédagogie, en didactique des langues et du français sont maintenant à peu près d'accord, me semble-t-il, sur le fait qu'on apprend bien une langue étrangère ou seconde quand on est bien à l'aise et bien affermi dans sa langue propre. Et par conséquent, tout ce qui concerne les langues nationales des pays, je buvais absolument du petit lait en vous entendant, nous sommes persuadés que les enfants qui parlent bien et correctement et qui sont sûrs à la fois linguistiquement et identitairement dans leur propre langue auront beaucoup moins de problèmes pour apprendre une langue seconde, dont le français. Mais ce n'est pas vrai seulement en Afrique. Je crois que c'est vrai tout autour du monde, avec évidemment les héritages historiques complètement différents qui posent des problèmes identitaires différents aussi. Mais je crois que l'évolution naturelle aujourd'hui, c'est bien de faire entrer au maximum, pas forcément de façon directe, mais aussi dans tout ce qu'il y a d'indirect, du point de vue culturel, du point de vue de la civilisation propre de laquelle sont issus ces enfants et ces jeunes qui nous sont confiés, comme une base solide sur laquelle on peut enseigner convenablement toute langue étrangère, dont la nôtre.
Excellence, Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale. Je suis très fière de prendre la parole en tant que Sénégalaise pour vous féliciter pour les positions courageuses que vous prenez dans notre pays, tant au plan politique qu'au plan culturel. Et je voulais évoquer ici une expérience que nous avons vécue au lycée français Mermoz, où nous avons été invités, nous, les enseignants sénégalais de l'université Charanta Diop, à partager avec nos collègues français notre approche de la littérature. En 30 ans d'enseignement au Sénégal, c'était la première fois que des professeurs français faisaient un pas vers nous pour découvrir notre littérature, disons, en suivant notre regard. Et je pense que ce genre d'initiatives doivent être multipliées parce que nous avons souvent l'impression que nous faisons beaucoup pour soutenir la langue française et que nous aimerions aussi que du côté des autorités françaises comme des Français, il y ait un effort pour que justement cette langue que nous avons en partage soit vraiment un instrument de découverte réciproque. Et je vous envoie aussi le salut de Citizen Dictée. Petit clin d'œil.
Merci.
Sachez que dans une autre émission, vous pouvez écouter le discours de bienvenue que le chancelier de l'Institut de France, Gabriel de Breuil, a adressé aux personnalités invitées par la FIPF, puis le discours en réponse du président de la FIPF, Jean-Pierre Cuc, et enfin plusieurs témoignages sympathiques et émouvants. Dans une autre émission, Canal Académie vous propose la retransmission de la vidéo d'accueil de la FIPF. 40 ans d'histoire en 5 minutes. Toutes ces émissions sont en libre écoute et téléchargement gratuit.